Scarp Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne.
Et action! Vous écoutez Scarp Ciné sur Radio Scarp Sensé et codiffusé sur Radio Club. C'est la 15e saison. Bonjour, bienvenue dans votre séquence 7e art. Du 26 au 30 septembre, la ville de Valenciennes fête le cinéma avec l'association Ciné Club Atmosphère. Et c'est la 15e édition du Festival de Cinéma. Pour parler de cette édition anniversaire, le directeur de la programmation, Jean-Marc Delcambre. En deuxième partie d'émission, c'est la séquence Ciné Bistro avec Hugo. Mais tout de suite, direction Valenciennes, l'Athènes du Nord, dans Scarp Ciné sur Radio Scarp Sensé Radio Club.
Scarp Ciné, l'émission qui vous regarde entre Douai, Cambrai et Arras.
Grégoire, c'est quoi un fonctionnaire?
C'est ce que tu seras jamais. On met pas un oiseau en cage.
Et toi, Grégoire, t'es un oiseau, toi?
Oui. J'ai quitté ma cage il y a longtemps.
À Valenciennes, à la Maison des Associations, avec l'association Le Ciné Club Atmosphère, son directeur de la programmation, directeur artistique Jean-Marc Delcambre, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
C'est l'événement chaque année, fin septembre, c'est le Festival de Cinéma de Valenciennes, un festival cette année qui fête ses 15 ans. On peut dire que c'est un festival qui est maintenant comme un ado. En fait, c'est un festival qui prend ses marques sur le territoire et en même temps, comme un ado, qui est presque un peu, des fois un peu impertinent et qui se donne à voir.
Oui, bah en fait, ces 15 ans, c'est un âge un petit peu complexe parce qu'on n'est ni tout à fait encore, on n'est plus enfant, mais on n'est pas adulte. Et en fait, bah, le festival poursuit sa mue, s'impose dans le paysage aussi bien régional que professionnel. Et c'est vrai que c'est une 15e édition qui a été conçue comme une édition qui s'affirme aussi à montrer que bah, en 15 ans, beaucoup de choses ont évolué avec un plateau exceptionnel. Et puis aussi cette volonté ce regret de ne pas avoir pu fêter nos 10 ans il y a 5 ans parce que le festival avait dû être interrompu pendant le Covid. Donc on s'est dit que cette 15e édition, c'était l'occasion ou jamais pour fêter une édition anniversaire un petit peu atypique, une édition d'un festival qui est en pleine adolescence mais dont la crise se passe plutôt pas mal puisque voilà, le résultat est formidable.
Comme chaque année, on retrouve compétition, fiction, documentaire. On retrouve aussi des invités d'honneur, une carte blanche, séance régionale avec Pictanovo. Et cette année, c'est une nouveauté. Vous avez décidé de mettre en avant, grâce au prix Jeune Talent, le jeune cinéma, la jeunesse aussi, qui aujourd'hui est en train d'exploser aussi sur le grand écran. Et vous avez choisi aussi un talent régional pour ce premier prix.
Tout à fait, on est parti du constat que chaque année on mettait à l'honneur deux talents, on célébrait des comédiens, des comédiennes ou des réalisateurs ou des cinéastes qui avaient en général une grosse carrière. Et on s'est dit que c'était bien aussi de célébrer voilà, des gens qui sont installés, mais qu'il fallait vraiment vivre avec son temps et pister, suivre des talents qui font aussi des films à succès et qui sont très porteurs dans des castings. C'est la raison pour laquelle on a créé ce prix Jeune Talent 2025. C'est un prix qui va être refait chaque année et qui va primer une réalisatrice ou un réalisateur ou un comédien-comédienne. Et cette année, c'est imposé à nos yeux Mallory Vanek, parce que d'une part, elle est de la région, elle est de Valenciennes. Et puis, c'est vrai que l'année dernière, elle a marqué avec le Triomphe de l'Amour Ouf, qui a fait plus de 4,5 millions d'entrées. Elle avait déjà été nommée au César pour Les Pires. Donc, c'est vrai qu'elle fait une très jolie carrière. Et je dirais que le choix s'est imposé d'emblée. Elle a accepté, on en était vraiment ravis.
Mallory Vanek est sur votre affiche tirée du film L'amour ouf de Gilles Lelouch, où elle est devant un train en marche avec Malik Frika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette image, cette affiche symbolise un vent de liberté, un vent de jeunesse.
Alors effectivement, il y a la liberté, il y a l'amour, il y a la passion, il y a la jeunesse, parce qu'on voulait vraiment aussi, je dirais, raviver l'image du festival. Quand vous regardez les précédentes affiches, on était plutôt sur Claude Lelouch, Patrick Devers, Robert De Niro, on avait aussi Romy Schneider, Piccoli. Donc c'est vrai qu'on était un peu resté sur des films de patrimoine des années 70, et là, depuis 2 ans, on a vraiment envie, à travers les affiches, de mettre des talents, je dirais, contemporains. L'année dernière, c'était Vincent Lacoste et Pierre Dolan-Donchamp. Cette année, c'est Mallory Vanek. Et évidemment, c'est un film qui a été tourné dans la région. C'est un film qui parle au public. C'est un film culte aujourd'hui. Et on a vraiment voulu montrer que le festival était un public qui n'est absolument pas élitiste, mais ouvert à tout le monde, où chacun peut y trouver son compte. Et il faut vraiment ne pas hésiter à y venir et à découvrir des films et les inviter.
Mallory Vanek, qui est valenciennoise. Et puis, pour cette même édition, vous recevez un acteur réalisateur où il y a plusieurs générations qui les séparent, mais il est aussi valenciennois. Et c'est une édition vraiment aussi particulière. Pour cela, vous allez célébrer Pierre Richard à l'occasion de la sortie de son film « L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme ».
Oui, ça fait des années qu'on voulait célébrer Pierre Richard. Les hasards du calendrier n'ont jamais permis de le faire. L'année dernière, on avait même clôturé le festival avec La Vallée des Fous en se disant secrètement que peut-être ce serait l'occasion. Et cette année, c'est la bonne. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir à Valenciennes deux talents valenciennois, peut-être la plus jeune actrice, Mallory Vanek, et l'acteur le plus âgé. Donc deux acteurs emblématiques, talentueux. Et c'est vrai qu'on est ravis d'accueillir Pierre Richard donc le dimanche 28 septembre. Il viendra présenter à 15h au Pâté son dernier film L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. Donc le film sort le 17, mercredi 17, mais attendez de venir le voir au Pâté en sa présence, parce que c'est un beau moment à partager ensemble. Donc c'est à 15h le 28 septembre au Pâté, et ensuite Pierre Richard recevra un trophée pour sa carrière et sera célébré à la séance du film en compétition à 17h30.
Et puis il y a une rétro aussi avec Le Grand Blond, notamment aussi avec Le Jouet, des films avec Pierre Richard qui seront rediffusés au cinéma. Mis à part l'acteur, qu'est-ce qui vous évoque Pierre Richard, l'homme?
Quelqu'un qui est, malgré son âge, quelqu'un d'éternellement jeune. Puis il faut savoir que j'ai un lien particulier aussi avec Pierre Richard, moi, en tant que cinéphile, puisque le premier film que j'ai vu au Novéac, c'était La Moutarde me montonnait, avec Pierre Richard. Donc c'est vraiment avec lui que j'ai découvert le cinéma. Et je dirais, c'est comme une boucle qui est bouclée d'avoir reçu Claude Zidi dans le jury la première année du festival, et enfin d'accueillir Pierre Richard. Enfin voilà, pour moi, ça représente vraiment quelque chose dans ma cinéphilie personnelle. Et puis, enfin, tout le monde a vu La Chèvre, les Fugitifs, Le Grand Blond. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de cette opportunité de revoir ces films sur grand écran au Pâté, avec des copies DCP, donc toutes neuves, des qualités de projection exceptionnelles. Enfin, c'est, oui, il faut profiter vraiment de l'occasion.
Ce festival, comme chaque année, il prend le pouls de la société grâce aux documentaires, grâce à la fiction. Vers quoi vous nous emmenez cette année pour les deux compétitions, en quelques mots?
Alors, déjà, des films qui ont été très peu vus. On a vraiment pris aussi le parti pris de ne pas prendre trop de films cannois qui auraient déjà été diffusés ou vus. Par exemple, on a refusé de prendre le dossier 137 qui est déjà passé à Lille, etc. Donc on a vraiment choisi des films aussi qui ont été peu vus, d'une part. La deuxième chose, c'est qu'il y a des thématiques un peu récurrentes. Alors par exemple, le handicap, c'est quelque chose de très important cette année dans le festival. Vous avez le magnifique film de Joséphine Japy qui s'appelle Qui brille au combat, qui passera le samedi après-midi à 14h, qui est un film où une famille doit faire face à un handicap de l'une des deux sœurs et comment chacun s'en accapare. C'est vraiment un film bouleversant, allez-y, c'est superbe. Le dimanche, il y a un documentaire qui s'appelle Elle n'entend pas la moto, qui là parle plutôt de la surdité et montre le handicap sous un autre prisme. Et puis il y a le film d'Isabelle Carré aussi, Les Rêveurs, qui traite aussi d'une autre forme de handicap. Donc ça, c'est vraiment l'une des thématiques. Le hasard veut aussi que le festival commence par deux films. L'un qui est un film de compétition qui s'appelle Ce qu'il reste de nous, qui est signé d'une réalisatrice palestinienne, Shirane Dabis, et ensuite un film qui s'appelle Holdin Layad. Donc les deux apportent un regard sur le conflit israélo-palestinien, mais je dirais avec un regard cinématographique et sans jugement. Donc c'est aussi pour nous une manière de participer à la réflexion autour de ça. Et puis beaucoup de rôles de femmes aussi cette année, beaucoup de films réalisés par des femmes cinéastes, et puis beaucoup de beaux rôles. Je pense par exemple effectivement à Shirane Dabis dans Ce qu'il reste de nous, Le gang des Amazones, qui retrace l'épopée de cinq filles qui vont faire des hold-up. C'est adapté d'un fait divers et c'est très bien. On parlait de Qui brille au combat. Il y a aussi Six jours ce printemps-là qui fait la part belle à Aya Adara. Bref, vraiment des très beaux rôles de femmes cette année.
Vous êtes la femme la plus riche du monde. Ça vous évoque quoi?
Riche, le mot n'est pas très joli. Fortunée, c'est mieux.
Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy. Si vous pouviez enlever tout ça, on se croirait à l'aéroport de Honolulu.
Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes.
C'est qui ce photographe?
Pierre-Alain Fantin.
Ce que je veux voir, c'est une héroïne.
Il a une réputation épouvantable.
Je ne photographie pas les gens, je les emporte.
Et voilà.
Les femmes seront à l'honneur sur grand écran, mais aussi dans la salle, avec notamment deux présidents de jury. Et cette année, pour cette 15e édition, les femmes sont particulièrement à l'honneur.
Oui, mais je dirais qu'elles ont toujours été à Valenciennes. Quand vous regardez l'historique des présidents de jury et des invités célébrés, en fait, je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont été mises à l'honneur que d'hommes. Et en fait, on ne déroge pas à la règle. C'est quelque chose d'instinctif chez nous. C'est vraiment pas quelque chose de calculé. C'est vrai que pour les documentaires, Claire Simon s'imposait parce que c'est une prêtresse en documentaire. C'est un art dans lequel elle excelle. Elle a fait des films de fiction, mais ces documentaires ont vraiment un regard particulier. C'est vrai que quasiment tous ses films sont nommés au César. Et puis, on a le bonheur aussi d'accueillir Anne Fontaine comme présidente du jury. Anne Fontaine qui a maintenant à son actif presque 25 longs métrages. Et elle représente aussi, je dirais, ces femmes réalisatrices qui, quand elle a commencé, elles n'étaient pas si nombreuses que ça. Aujourd'hui, elles sont... Voilà, il y a beaucoup de cinéastes femmes, mais quand Anne Fontaine a démarré, il n'y en avait pas tant que ça. Et depuis, elle a réussi à se faire un nom, elle a réussi à faire une carrière, à faire tourner énormément de stars dans ses films, et on est très heureux de l'image de la cinéaste femme qui s'est fait un nom et qui a fait une belle carrière.
Deux autres femmes aussi qui seront à l'honneur des actrices qui sont engagées dans leur rôle, qui incarnent aussi à leur manière le cinéma français. L'une c'est Catherine Froh et l'autre c'est Isabelle Carré, qui sont deux personnalités marquantes aussi de ce cinéma français, avec leur rôle, comme je disais, engagé, avec leur rôle aussi, où elles mettent beaucoup d'elles-mêmes aussi dans ces rôles. C'est ça aussi, c'est des actrices qui comptent dans le cinéma, évidemment. Mais pourquoi les avoir choisies, mis à part tout ça?
Alors déjà parce qu'on sont des actrices qui jouent aussi bien au cinéma qu'au théâtre, et c'est vrai que c'est un challenge d'aller chaque soir sur une scène, rencontrer un public et se mettre en danger. Donc c'est un peu l'un des premiers points particuliers. Ce sont deux actrices qu'on aime beaucoup et ce sont deux actrices populaires. C'est vrai que quand on pense à Catherine Froh, on pense à Odette Tout le Monde, on pense au Crime et notre affaire, à Marguerite, et on espère du moins que le public sera ravi de rencontrer Catherine Froh à Valenciennes. Et puis il y a Isabelle Carré aussi qui a une sincérité, une sensibilité, un regard aussi. Et quand vous regardez sa filmo, il y a des magnifiques rôles de femmes. Et puis elle a pris des risques aussi avec des sujets pas toujours évidents. Quand vous regardez Anna M ou La femme défendue, c'est vrai qu'elle a parfois choisi des rôles un peu difficiles à défendre. Et on avait envie justement de célébrer ces deux comédiennes qu'on aime beaucoup et qui sont aussi aimées du public.
Pour cette 15e édition, il y a un choix particulier aussi pour ces deux actrices. Vous les avez depuis longtemps en tête?
Oui, évidemment, des actrices qu'on a envie d'accueillir depuis longtemps. Et puis après, c'est des histoires de calendrier. Donc en fait, on a une liste. On arrivera un jour ou l'autre à les accueillir toutes et tous, parce qu'il y a aussi des comédiens certaines années qui sont mis à l'honneur. Parfois, c'est la bonne année, parfois, c'est pas la bonne année. Mais en tout cas, chaque année, on a cette chance d'avoir, pour les artistes célébrés, l'année dernière, c'était Lambert Wilson de Milowski, cette année, c'est Catherine Froh, Isabelle Carré, on a la chance d'avoir des stars, en fait, auxquelles le Festival de Valenciennes rend hommage.
Et c'est bien plus qu'une remise de prix, c'est derrière un échange aussi avec celui qui reçoit ou celle qui reçoit une récompense. C'est presque une masterclass.
Oui, c'est un peu comme le César, je dirais. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des films de ces artistes qui passent pendant le festival. Par exemple, on pourra revoir 4 films avec Isabelle Carré, 4 autres avec Catherine Fro. Donc, c'est aussi l'occasion de revoir sur grand écran des artistes qu'on aime dans des rôles qu'on a aimé les voir. Et puis, il y a effectivement cette célébration sur scène avec généralement un tunnel d'extrait de leurs films qui permettent de reparcourir en quelques minutes la carrière et de se remémorer à quel point ce sont des artistes qui comptent. Il y a un échange avec évidemment la maîtresse de cérémonie qui est cette année Charlotte Lipinska, et puis il y a aussi des invités surprises, et ça ce sont des invités qui ne sont pas annoncés. Par exemple, l'année dernière pour Constance de Montois, il y a Cédric Clapiche qui n'était pas prévu. Je me souviens que pour Daniel Thompson, il y a Valérie Lemercier qui n'était pas annoncé, qui est apparu. Cette année, on sait par exemple que pour l'un des deux métiers du cinéma, il y a un immense réalisateur français césarisé cette année qui sera là. Donc il faut prendre la peine de venir, parce qu'il y a toujours des bonnes surprises au Festival de Valenciennes.
Vous parlez justement aussi de ces métiers du cinéma, parce que ce festival, depuis 15 ans, il met en avant ces métiers du cinéma. Il n'y a pas que les réalisateurs, il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi tous ces métiers qui font qu'aujourd'hui un film arrive devant nous.
Oui, ce sont tous ces artisans du 7e art qui œuvrent en coulisses et qui font en fait qui font en sorte qu'un film soit un succès. Et chaque année, on fait des métiers qui changent, qui évoluent. Cette année, on a choisi deux personnalités qui ont une particularité, c'est qu'ils sont techniciens, mais devenus réalisateurs. Le premier, c'est Olivier Schneider, qui est un coordinateur de cascade. Et vous aurez l'occasion, du coup, de voir pendant le festival sur grand écran des films comme Taken, des films comme Fast and Furious ou Spectre, pour lesquels il a tourné. Olivier Schneider viendra expliquer son métier. Il a d'ailleurs fait un film qui s'appelle Les Orphelins en tant que réalisateur il n'y a pas longtemps. Et le deuxième sera un scénariste, c'est Thomas Bilguin, qui a fait des scénarios comme pour ses propres films, Les Cowboys, mais aussi comme Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel, ou encore de nombreux films signés Jacques Audiard. Et quand je vous parlais tout à l'heure de Célébration, vous aurez peut-être compris quel était le réalisateur qui allait lui remettre son prix.
Et dans la compétition aussi, il y a des réalisateurs qui seront là, notamment Jean-Paul Salomé, François Ozon aussi qui viendra présenter en avant-première L'étranger, l'adaptation très attendue d'Albert Camus.
Oui, c'est vrai qu'on a cette chance cette année d'avoir des revenants. Par exemple, Fabien Gorjard était venu présenter La vraie famille à Valenciennes. Et il a choisi Valenciennes pour la première de son film C'est quoi l'amour ? C'était une comédie de remariage avec Laure Calamy, Vincent Macken, Grégoire Le Prince Ringuet, Céleste Brinquel. Et on est heureux qu'il ait choisi Valenciennes pour cette première projection. Jean-Paul Salomé, qui était président de jury l'année dernière, a tenu aussi à montrer son nouveau film à Valenciennes. Ça s'appelle L'affaire Bojarski, avec Reda Kateb, avec Sarah Giraudot, avec Pierre Lotin. C'est vraiment une réussite. Et puis il y a François Ozon. Il y a des noms très connus qui viennent maintenant en compétition à Valenciennes. Et puis il y a aussi des premiers films. Je pense à La danse des renards, je pense à Qui brille au combat. Des gens de talent en début de carrière ou avec des jeunes filmographies assez renommées.
Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte?
Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément?
Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. C'est bizarre.
Alors, c'est vraiment un festival pour tous les publics, pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Il y a les scolaires qui viennent. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours ouvertes. D'ailleurs, si vous êtes prof et que vous voulez venir pour voir un film, et avec aussi des séances jeunes publics. Voilà, c'est une sorte d'éducation à l'image aussi, parce qu'il y a la rencontre avec les réalisateurs. Donc c'est ça aussi, c'est de faire découvrir le cinéma jeune public, mais bien sûr qui est visible par tous aussi, par les grands.
Alors oui, 7 films qui ne sont pas encore sortis sur les écrans. Certains d'entre eux vont sortir début 2026. Je prends un exemple, l'année dernière, dans cette sélection-là, il y a un film qui s'appelait Flo, qui depuis a eu le César et l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc c'est vraiment une section qu'il ne faut pas mettre de côté. On a vraiment des petits bijoux cette année. Je pense par exemple au film de Sylvain Chaumet qui a fait Les Triplettes de Belleville. Et c'est vrai que Marcel et Monsieur Pagnol, c'est une perle. Et je dirais que moi, je veux bien être enfant à mon âge, à 55 ans, pour aller voir ce film, parce que c'est vraiment un film formidable. Je vous recommande aussi Arco, qui est un film de Hugo Bienvenu, qui a été présenté à Cannes, qui a eu le Grand Prix à Annecy, qui aujourd'hui représente, enfin est dans la shortlist des films français pour les Oscars. Et on a la chance que Hugo Bienvenu vienne le présenter donc le mardi 30 septembre à Valenciennes, à 2 séances, une à 14h et une à 20h. D'ailleurs, Hugo Bienvenu fera aussi une dédicace d'une de ses BD. Et puis, il y a aussi des beaux films comme Le Secret des Maisons, Jacques du Papier Découpé, Olivia, La Princesse et le Rossignol, L'Odyssée de Céleste, ou encore Super Grand Prix, qui est un film plus grand public avec la voix de Nikos Aliagas. Bref, vraiment des films d'animation pour tous les âges, pour tous les publics, et aussi des films d'animation qui abordent des thématiques qu'on n'a pas forcément toujours, je dirais, l'occasion d'aborder. Par exemple, le fait qu'une petite sœur doive s'occuper de son petit frère parce que la maman ne va pas bien. Voilà. Et ça peut parfois, c'est bien d'aller voir des films comme ça en famille, parce que ça permet parfois d'aborder des sujets qu'on a la pudeur de ne pas aborder en temps normal. Et le fait qu'un film aborde ces thématiques-là, bah, ça peut permettre d'ouvrir des discussions avec les enfants et le dialogue. Et on est aussi là pour ça, d'une certaine manière.
Quel type de jury on va pouvoir voir cette année ?
Alors, côté fiction, on a un jury franchement magnifique. Alex Baupin, compositeur, Grégoire Collin, comédien, Guillaume Senèze, réalisateur qui a fait plusieurs films avec Romain Duris, Laetitia Doche, Pascal Bonitzer, qui est un scénariste de renom, et Sophie Guillemin. Bref, un jury formidable. Et puis un jury documentaire aussi qui est tout aussi pertinent, avec Anne Consigny qui est comédienne, Stanislas Mehrard qui d'ailleurs reverra Anne Fontaine puisque c'est elle qui l'a révélé dans Nettoyage à sec, Rosalie Varda qui forcément étant la fille d'Agnès Varda, c'est mieux que personne juger un documentaire, et puis Florent Vassaux dont l'un d'ailleurs dont un film avait été présenté à Valenciennes il y a quelques années, ça s'appelait Onk, et il l'a fait il n'y a pas longtemps, un film avec Xabrou Bretman.
Avec toi,
Iris, c'est impossible.
Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas.
Tu crois que ça existe encore, les vœux ? Comme dans les histoires ?
Voilà, du beau monde à Valenciennes. Et puis, on peut terminer sur le tarif, parce que les auditeurs vont dire, oui, mais bon, c'est une séance de cinéma, maintenant, ça, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est un tarif aussi, on va dire, associatif aussi, où vous mettez en avant ce cinéma, mais aussi à prix raisonnable.
Le tarif plein pour les célébrations, c'est ce dont tu parlais, Joris, c'est 9,90, mais une célébration, c'est quoi ? C'est voir un film avec un jury dans la salle, avec une équipe de films, avec une artiste qui est célébrée, des invités surprises, pouvoir demander des autographes, faire des selfies, bref, c'est un montant qui est pas si élevé pour un moment dont vous vous souviendrez toute votre vie, avec des petites étoiles dans les yeux en sortant. Les films qui ne sont pas pressés des dommages, c'est 8 euros la place, c'est un tarif tout à fait accessible. Après, il y a toute une armada de tarifs réduits, 7 euros pour les adhérents écran de Valenciennes, pour les détenteurs d'un pass Transville, pour les moins de 26 ans. Les moins de 14 ans, il y a un tarif à 5 euros, ce qui peut permettre d'aller voir les films d'animation en famille pour un budget modeste. On accepte bien évidemment la part collective, la part individuelle du pass culture, les cartes ciné-pass, les ciné-cartes, et il y a aussi un achat possible d'un carnet 5 places qui coûte 30 euros, qui fait la place à 6 euros, et vous pouvez acheter un carnet pour la famille et bénéficier à chacun dans ces cas-là du tarif de 6 euros. Donc finalement, c'est une sortie qui est pas chère, et vraiment, c'est pas une séance comme une autre, c'est un moment festif, c'est un moment convivial, c'est un moment de partage, et puis on voit avant tout le monde des films qui feront l'événement des prochaines semaines et des prochains mois.
Alors, tout à l'heure, je disais fin septembre, mais on va peut-être donner les dates quand même pour les auditeurs.
C'est du vendredi 26 au mardi 30 septembre. C'est facile, c'est les 5 derniers jours du mois de septembre. C'est au Pâté Valenciennes et c'est The Place to Be.
Festival de cinéma de Valenciennes.fr avec le chiffre 2. Et puis, dernière question, l'association Atmosphère, ce n'est pas que le festival, c'est aussi un ciné-club, il faut le rappeler. Et j'y vais de temps en temps et je vois de très beaux films. C'est les mardis et jeudis à 20h. Où bien, on peut découvrir des films à Ressée avec chaque semaine une séance, on va dire tandem en fait, hein, entre un lien qui lie les films du mardi et du jeudi.
Alors déjà, un atout, c'est un ciné-club. Donc c'est un rendez-vous avec des gens qui se rencontrent, qui peuvent discuter à la fin du film. Deuxième atout, tous les films qui sont programmés au ciné-club ont été vus auparavant. Et on n'a que 84 séances dans l'année, donc il faut choisir les meilleurs. Et c'est mon travail d'aller voir toutes les semaines tous les films qui sortent et d'essayer de choisir parmi eux ceux qui sont incontournables. Par exemple, l'année dernière, tous les films du Festival Télérama étaient projetés au Ciné-Club. Et puis, c'est aussi des moments avec des rencontres, des avant-premières parfois, et puis de la venue de réalisateurs. Par exemple, le 7 octobre, on reçoit Pauline Loquès, qui est la réalisatrice d'un fort beau film qui s'appelle Nino. Et donc je vous donne rendez-vous le 7 octobre à 20h pour découvrir Nino en présence de la réalisatrice. Et puis voilà, il y aura plein d'autres films à venir. Et là, sur le site, c'est écran, le chiffre 2, valenciennes.fr.
On fait le plein de cinéma à Valenciennes entre le festival et quelques jours après, on se repose et on repart pour l'avant-première avec la réalisatrice du film Nino. Dernière question cette fois-ci, Jean-Marc, mais voilà, un festival, une 15e édition, qu'est-ce qu'on attend de ça? Évidemment, le public, mais on se dit que c'est aussi 15 ans de notre vie et plus hein, à faire vivre le cinéma dans le Valenciennois.
En fait, un festival, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Moi, je n'ai pas pris de vacances. Je travaille tous les jours de 9h à 1h du matin. Il faut une certaine forme de générosité, d'une certaine manière, d'altruisme pour, comme ça, prendre beaucoup de son temps, donner de sa passion pour offrir du plaisir aux autres. Donc, c'est comme un bébé qu'on construit pendant un an, alors, en l'occurrence. Et puis, on l'offre au public. C'est vraiment un beau cadeau. Donc, après, c'est au public de s'en accaparer, de prendre la peine d'aller découvrir des films dont on n'a pas forcément entendu parler, mais qui ne peuvent que révéler de bonnes surprises. Et en tout cas, c'est vraiment un moment privilégié dans la vie culturelle de la région. Donc ne manquez pas cet événement, il est fait pour vous. Et évidemment, s'il pouvait être fait avec vous, ce serait encore mieux pour parfaire la fête.
J'ouvre la dernière parenthèse avec le cinéma en région, aussi avec la présence de Benoît Delépine et pour le film Animal Totem. Alors, Benoît Delépine, si vous aimez l'émission Groland, forcément, ça, vous allez découvrir aussi l'univers. Il est seul aux commandes de ce film et moi, j'ai hâte de voir ce film. En plus, donc, produit et tourné en région. Merci, Jean-Marc Delcamp. Donc, pour cette 15e édition du Festival de cinéma de Valenciennes avec l'association Atmosphère, merci à vous et bon ciné.
Merci à toutes et tous et venez nombreux.
Joris et son équipe vous emmènent en balade du côté des films produits près de chez vous. Thank you.
On connaît tous la musique du film Le Grand Blond d'Yves Robert avec une chaussure noire, un film de 1972. Ce film sera d'ailleurs rediffusé au cinéma le 27 septembre à 16h45 et c'est au Pâté de Valenciennes, c'est dans le cadre du festival de cinéma et à l'occasion de la venue de Pierre Richard à Valenciennes. Scarp Ciné continue avec la nouvelle séquence de cette 15e saison, Ciné Bistro avec Hugo.
On ne bouge pas pendant le jingle.
Dans la mythologie slave, la Kikimora est un esprit qui existe dans les ténèbres.
Cet été, décidément, un été plein d'action, parce que tu as vu Ballerina dans l'univers de John Wick de Lynn Wiseman. Et alors ça, est-ce que tu es aussi déçu que Mission Impossible ?
Non, pas vraiment, déçu. J'ai passé un bon moment, mais j'ai pas retrouvé l'esprit de John Wick. Parce que pour moi...
C'est quoi l'esprit de John Wick ?
Alors, l'esprit de John Wick, c'est des films d'action débridés qui tirent même, pas dans leur contenu, hein, parce que leur contenu reste très terre-à-terre, mais dans la mise en scène, dans l'univers, on dérive presque vers un univers légèrement fantastique. Pas fantastique, parce qu'il n'y a pas de... Mais presque fantasmagorique. On est vraiment dans une pellicule qui instaure un univers. Et là, avec Ballerina, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu du... Bon, après, c'est le principe d'un spin-off. Hein. On reprend les codes et on les met à une autre sauce. Mais j'ai pas trouvé l'héroïne très charismatique. Les scènes de combat, elles sont quand même beaucoup moins. Parce que quand on va voir un John Wick... Je vais voir, en fait... je vais vous dire quelque chose, chers auditeurs, et à toi, Joris. Quand je vais voir un John Wick, je vais voir un spectacle. Je prends mes billets pour aller voir un spectacle, en avoir plein les yeux. Et là, j'ai pas eu ce sentiment. J'étais avec mon ami Karl, que tu connais, je pense. Lui, il a adoré, il a mis ça au niveau de John Wick 3. J'étais pas du tout d'accord. Bon, c'était sympa, hein.
Il y a un moment, je trouve que dans les films, dans les firmes, il faut arrêter. Parce que Mission Impossible, c'est, comme tu l'as dit, c'est celui de trop. Là, j'ai l'impression que tu n'as pas aimé aussi. Moi, c'est ça. C'est que moi, je m'arrête souvent aux deux ou trois. Mais je ne vais pas voir les suites parce que c'est du réchauffé. Et c'est ça qui m'exaspère, en fait. C'est quand je vois, parfois, au début d'année, toutes les suites... Je me dis déjà, ces films-là, je ne vais plus les voir parce que j'ai plus ce sentiment comme une première fois devant un film. Et c'est ça qui est dommage quand même. Et est-ce que toi, malgré ça, tu arrives à avoir un peu un sentiment de retrouver quand même cette première fois comme avec John Wick ?
Bah, écoute... John Wick, c'est un peu différent parce que tu vois... Surtout, je pense aujourd'hui, la suite a tellement été industrialisée, on a tellement cette logique de suite à laquelle on peut rarement échapper. John Wick, c'est l'inverse. En général, tu sais, c'est le premier épisode qui est excellent, le deuxième un peu moins bien, le troisième qui est nul, tu sais, un peu le côté Rocky. Sauf que John Wick, c'est l'inverse. Le premier était bien, mais était standard, générique, un film d'action basique. Le deuxième était vraiment sympa. Le troisième était cool, le quatrième était dingue, et le cinquième était waouh. Il y en a eu cinq, je sais plus si il y en a eu quatre ou cinq. En tout cas, pour le cas de cette franchise-là, on est plutôt sur l'inverse, on est sur une montée en puissance. Donc, ça arrive aussi qu'on ait des franchises qui deviennent plus qualitatives, mais c'est les franchises qui sont pas programmées. Parce que John Wick, la franchise, elle n'était pas programmée. Au début, ils ont fait un film ensemble, pour rigoler, ils se sont emballés, donc en fait tu sens cet emballement petit à petit. Donc non, c'est vraiment une franchise de différentes.
On se met au travail. Regardez qui est venu jouer avec moi. On m'a programmé pour protéger Keddy. Reste à savoir si tu vas te mettre en travers de mon chemin. accrochez-vous, ça va saigner.
Je m'en fous qu'elle ait tué 4 personnes. C'est une princesse guerrière super sexy.
Hugo, on parlait d'action. Et si on parlait un petit peu de thriller, d'horreur maintenant, avec le dernier film Megan 2.0 de Gerard Johnston. Et c'est un film qui t'a laissé indifférent ou pas?
Ouais, je pense que le mot c'est indifférent. J'attendais beaucoup de... Bon, j'attendais pas. J'ai vu le premier, je l'avais vu, j'avais trouvé que c'était... Moi je suis un grand fan des poupées tueuses, hein, que ce soit les Puppet Masters, que ce soit Chucky, ouais tout à fait. Même il y avait eu Damien aussi, j'aime bien les histoires de poupées, de marionnettes, de ventriloques, tout ça. Donc c'est un truc qui me botte, et puis j'aime le cinéma de genre avant tout, enfin tu me connais. Et donc j'ai vu un petit peu la bande-annonce, ce que les youtubeurs, les journalistes disaient d'avance de ce film. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça peut être une bonne surprise. Ils avaient l'air de quitter les standards du film un petit peu horrifique avec la poupée pour partir sur un truc un peu plus débridé, un peu plus estival. Tu sais, quoi. Moi, j'adore les films d'été où tout part un peu en vrille. Tu sais que tu poses ton cerveau avant d'entrer dans la salle et tu regardes le film et puis tu t'amuses, quoi, tu te marres. Moi, j'adore le divertissement, j'adore le fun. Cependant, là, on n'était pas forcément... en tout cas, je suis allé voir tout seul, donc je dis « on » parce que je me nounois, tu vois. Nous n'étions pas forcément ravis du résultat. C'est pas que je me suis fait chier, mais j'ai quand même regardé plusieurs fois ma montre. Alors bon, quand t'es avec quelqu'un au ciné, tu peux parfois échanger un clin d'œil, le discuter rapidement, le temps passe plus vite. Là, j'ai quand même regardé ma montre, je me suis dit pendant tout le film, mais où ça va, quoi? Où ça va? Est-ce que je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, une espèce de parodie de film d'espionnage. Ça rejoint un peu Mission Impossible, en fait. Hein. J'ai vu Mission Impossible un peu avant. J'ai vu ça juste après. Je me suis dit, bon, c'est encore un pseudo-film d'espionnage sur le thème de l'intelligence artificielle. Enfin, maintenant, on va s'en bouffer à toutes les sauces, quoi. Donc, voilà, ça... couplé au fait que j'ai entendu des rumeurs comme quoi le producteur de Blumhouse Productions, qui est un producteur de une production de films horrifiques outre-Atlantique, c'est un peu eux qui produisent la plupart des films horrifiques. J'ai cru comprendre que c'était plutôt un plaidoyer politique en faveur de l'IA, donc un truc hyper marchand, quoi, un truc hyper...
Sentir.
Ouais, bah non, alors non. Si j'avais pas écouté les critiques des 10 heures de Bonne Aventure, je l'aurais pas senti. Mais c'est après, en regardant donc les critiques, que j'ai découvert ça. Et bah, ça m'a pas enchanté parce que je me suis dit, ouais, si c'est ça qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire promouvoir l'IA, c'est mal fait parce qu'en fait, dans son scénario, on comprend pas où il va, on comprend pas ce qu'il veut dire. Ouais, c'est marrant, t'as une poupée qui attaque une autre poupée. Ils doivent récupérer un code secret. Enfin, moi, vous savez ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé Spy Kid. Bon, alors pour les anciens, ouais. Ouais,
j'ai connu ça.
Tu te rappelles? Bah, on était pas loin.
C'est enfantin presque.
Bah, ouais, ah, complètement. Mais non, mais un scénario à coucher dehors, quoi, à dormir debout. Oui, il y a une poupée, mais en fait, il y a une armée qui a volé les codes. Et...
Je te propose un deal. Tu peux tuer Gemma, mais tu touches pas à Kedi.
Megan.
Je sais même pas comment expliquer ça. Si tu veux, oui, il faut récupérer les plans parce qu'ils vont utiliser les plans pour fabriquer une méchante poupée. Et ils créent la méchante poupée. Et finalement, la méchante poupée du premier film devient la gentille poupée du deuxième film, comme dans Terminator. Enfin. Vu, revu, réchauffé, surchauffé, enfin, que veux-tu que je te dise?
Donc c'est une suite alors aussi, Megan 2.0, et le premier avait marché?
Le premier, de toute façon, à partir du moment où il déclenche une suite, c'est que le premier a marché. Mais j'aurais limite préféré prennent la suite directe, quoi, qu'ils fassent un truc un peu dans la même ambiance. Là on sent qu'ils se sont dit, bon, on va tenter un truc, ça passe ou ça casse, on y va au culot. De toute façon, on s'en fout, on a la licence.
Ah ouais, au culot, quoi.
Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est une audace déplacée. L'audace, elle est belle, elle est louable dès lors qu'elle n'est pas forcément animée d'un... Enfin, dès lors qu'elle est animée à la base par une prétention artistique. Et là, j'ai pas l'impression que l'audace, elle soit guidée par une prétention artistique, mais purement par une prétention commerciale, et ça tombe à plat.
C'est moi où je te sens Ballerina, depuis Mission Impossible, un peu désabusé sur quand même un peu les films de l'été. Enfin, pas tous les films, mais en tout cas, ce que t'as vu.
Bah écoute, après c'est le goût du risque aussi. Hein. C'est voilà, on sait que c'est l'été, on sait qu'on va avoir des films pas prises de tête. Des fois on a des belles surprises, des fois non. Avec 28 ans plus tard, j'ai été scotché, quoi. Pour moi, il
rattrape tout.
Il rattrape les 4 autres. Et en plus, Megan, je suis allé le voir pendant la fête du ciné, donc j'ai payé 5€ la place. Heureusement, j'y serais pas allé sinon, hein, je te le dis clairement. Oui, non.
Moi, j'ai vu Avignon pendant la fête du cinéma, un film avec Baptiste Le Caplin et Alison Wheeler, tourné justement pendant le festival d'Avignon, qui traite un peu de un peu la confrontation entre théâtre privé et théâtre de boulevard. Est-ce que théâtre de boulevard, c'est du théâtre ? Enfin, c'est vraiment bien mené. C'est en plus un film dans un esprit de troupe qui a bien marché au cinéma, un film ensoleillé. Et puis les comédiens sont bons. Ça donne envie d'aller justement à Avignon, à la Cité des Papes, pour voir donc ce festival de théâtre. Eh bien voilà, ce Ciné Bistro, on ferme un peu nos portes pour Ciné Bistro, mais on se retrouve le mois prochain, Hugo. Bon, on espère qu'il va y avoir des bons films. Hein. Là, quand même, on va pouvoir parler de bons films.
Bah, écoute, là, c'est la rentrée. On attend quand même, quelques pépites. On attend quoi déjà ?
Moi, j'attends quand même. Enfin, il y a le biopic sur Michael Jackson qui va arriver. Il y a fin d'année, mais c'est le nouveau Avatar aussi, James Cameron. Mmh. Ça, c'est pour décembre. Mais,
les blockbusters de décembre. Ouais. Ouais.
Là, j'attends. Mais il y aura aussi des films un peu plus de niche, mais des films aussi qui sont aussi tout aussi intéressants. On aura l'occasion d'en reparler, de ces films américains, films français, ou de ces films avec venus d'autres pays.
Oui, oui. T'as Connemara qui est réalisé
avec
par Alex Lutz. Connemara, le bouquin de Nicolas Mathieu, que j'aime pas du tout. Hein. En tout cas, à lire, c'est infernal. Après, j'ai trouvé que le film Leurs enfants après eux, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Mais à lire, c'est une purge. Peut-être que je vais essayer de me replonger dedans, mais vraiment, c'était pas du tout mon délire.
Eh ben, on aura peut-être l'occasion d'en reparler le mois prochain sur Radio Scarpe Sensé dans l'émission Scarpe Ciné. Merci Hugo, c'était un plaisir. Et on se retrouve le mois prochain.
Bah écoute, au mois prochain, et là on fait quoi ? On se commande un truc à manger ?
Bah écoute, oui, pizza. Ciné pizza, comment on le fait ?
Allez, c'est parti, let's go !
Go, go, go ! Allez, tout de suite, la suite de Scarpe Ciné sur votre radio locale, évidemment. Retour en studio.
Une heure de cinéma sur le 94.1. Vous écoutez Scarpe Ciné.
Vous écoutez Scarpe Ciné à l'instant, la musique du film Le Jouet de Francis Weber, la musique de Vladimir Kosma. Un film à redécouvrir sur grand écran le 28 septembre à 11h au Pâté de Valenciennes. Et ce même jour, vous pouvez découvrir L'Homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, le nouveau film de Pierre Richard le 28 septembre à 15h en sa présence à l'occasion du Festival de cinéma de Valenciennes du 26 au 30 septembre. Plus d'informations sur festivaldevalenciennes.fr. On passe à la rubrique à l'affiche.
Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
Ciné-goûté, mercredi 8 octobre à 14h au Mégarama à Arras avec l'association Plan Séquence. Marie Hanning, dès 6 ans. Donc le 8 octobre, ciné-goûté, Marie Hanning, pionnière de la paléontologie avec Lucie Herreros, médiatrice cinéma avec l'association Plan Séquence. En ce 24 septembre, eh bien, des belles sorties au cinéma. On fait un petit tour du côté des salles obscures avec le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn. Rembrandt de Pierre Scholler avec Camille Cotin et Romain Duris. Claire et Ivre, physiciens de formation, travaillent dans le nucléaire depuis toujours. Lors d'une visite à la National Gallery, Claire va être bouleversée par trois toiles de Rembrandt. Cette rencontre avec ses trois œuvres magistrales va les changer à jamais. Le nouveau film de Anthony Cordier avec Laurent Lafitte et Élodie Bouchèze, Classe moyenne. Et puis une comédie qui réunit Christian Clavier et Ryan Benzetti qui s'intitule Le million de Grégoire Vigneron. Voilà pour quelques films qui sortent aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver bien sûr Scarpe Ciné sur radioscarpesensé.com. On se donne nous rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous le savez, allez au Festival de cinéma de Valenciennes et allez au cinéma.
Scarpe Ciné,
séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action!